Bien, merci de votre patience. Nous étions dans l'attente d'un groupe d'étudiants. Apparemment, il a apprécié un peu plus que nous encore la bonne chère lyonnaise. Et donc, ce groupe arrivera peut-être un peu plus tard tout à l'heure. En tout cas, voilà, ils ont tout seuls découvert le bonheur. Ils ont décidé d'expérimenter eux-mêmes et de ne pas écouter ce qu'on allait en raconter. Donc, merci d'être aussi nombreux. Vous êtes une des séances les plus nombreuses. Je crois que les organisateurs ont dû même refuser quelques demandes, donc très, très flatté d'avoir une salle aussi bien garnie. Donc, ce que nous allons essayer d'aborder, pas de traiter, je crois, en tout cas, la modestie impose en tout cas d'utiliser plutôt le mot aborder, effleurer, caresser peut-être, je ne sais pas, en tout cas nos experts vont nous dire ça dans un petit moment, c'est ce concept de bonheur. Alors, j'aime autant vous dire que moi, petit économiste vraiment très traditionnel, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Je crois que c'était pas dans l'enseignement très traditionnel et dans le bar, j'ai jamais vu un chapitre consacré au bonheur. Et tous ceux qui ont suivi le bar, ils voient de quoi je parle, ils vont tout de suite comprendre de quoi je parlais. Mais on va quand même s'intéresser à cette affaire-là parce que il y a très certainement quelque chose à essayer de creuser et de le creuser d'une manière probablement un peu iconoclaste, mais comment apprécier le bonheur? Et ça, il y a maintenant une méthodologie, en tout cas certains chercheurs s'y emploient, et c'est Nicolas Sauget qui va nous expliquer comment on approche un petit peu méthodologiquement ces concepts de bonheur, à la fois en France mais aussi ailleurs. Alors, bien sûr, on va essayer de dépasser l'exemple du Bhoutan, que tout le monde connaît, je crois, ici, qui fait du bonheur national brut et non plus du produit national brut. Mais je crois que là, il y a une vraie piste, et donc on va creuser tout cela. Et puis, donc, Nicolas est à Sciences Po Paris et il est chercheur au CEVIPOF. Ne me demandez pas tout ce que veut dire CEVIPOF. Je crois qu'ils ont changé 2 ou 3 fois l'appellation, donc on est tous un peu tournés là-dedans. Mais il vous le dira lui-même s'il le sent. Mais voilà, il travaille pour Sciences Po, c'est l'essentiel. Et puis, Andrew Clark, lui, travaille alors alternativement la Paris Economic School ou à l'école d'économie de Paris en français, ce qui est beaucoup plus simple. Hein. Mais eux aussi, ils changent de nom tous les ans. Donc voilà, et qui va lui essayer de consacrer son propos à comment est-ce qu'on peut éventuellement faire du bonheur. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu tout cela que nous allons voir ensemble. Nous avons 2 impératifs. Le premier, c'est évidemment, quand vous allez avoir la possibilité de vous exprimer, je souhaite que vous soyez les plus nombreux possible à pouvoir le faire. Donc on va s'organiser pour que vous ayez la parole et que Andrew et Nicolas puissent répondre à vos attentes. Donc, de le faire brièvement, de manière à ce qu'on puisse avoir de véritables échanges. Et notre 2e impératif, eh bien, c'est tout simplement de libérer les lieux à 15h30 tapante, parce que le beau piano qui est derrière nous aura 1 quart d'heure pour être installé, parce que derrière il y a des répétitions avec des musiciens, et donc par correction, il faudra qu'on libère la salle juste on time, comme dirait Andrew. Voilà. Donc, on va tout de suite démarrer. Je crois que c'est Nicolas qui va nous... Donc, Nicolas Pusselipov, de Sciences Po Paris, qui va nous raconter un petit peu comment on peut apprécier ce concept de bonheur, qui est un vrai mystère pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi.
Alors, bonjour à tous et merci d'être si nombreux. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, on parlait du Bhoutan il y a une seconde. Je ne vais pas parler du Pusselipov, c'est autre chose. Le Bhoutan avec son bonheur national brut, et c'est un peu la perspective que je vais avoir, même si je ne parlerai jamais du Bhoutan, mais c'est bien cette perspective macroscopique pour comprendre de manière assez générale qu'est-ce qui détermine le niveau de bonheur au niveau des nations. En commençant par poser en fait une question préalable, qu'est-ce que c'est que le bonheur au niveau des nations? Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous donner de définition parce que je suis incapable, je ne suis pas économiste non plus, mais je ne suis en tout cas pas philosophe. Et je vais donc me satisfaire, en fait, dans une première partie, dans un premier propos, d'essayer de voir quels sont différents types d'indicateurs du bonheur et comment ils s'organisent entre eux pour définir un petit peu les deux grandes dimensions, parce qu'elles appartiennent vraiment toutes les deux au bonheur, mais qui peuvent être liées au bonheur. Et ensuite, on verra assez rapidement dans quelle mesure ces positions, ces deux dimensions du bonheur, peuvent être considérées comme déterminées à la fois socialement, politiquement et économiquement. Fondamentalement, ce que je vais vous dire va beaucoup est reposé sur des chiffres. Alors, je pourrais vous faire les développements et tout, mais comme le temps est limité, hein, on va faire assez rapidement cette description du modèle. Pour ça, je vais me baser sur une grande enquête, et c'est notamment pour ça que je suis là, une grande enquête internationale qui est l'enquête sociale européenne, et qui interroge tous les deux ans l'ensemble des Européens, ou presque, hein, l'essentiel des pays est présent, mais comme vous le verrez, la Suède donnée que je vous présentais, tous n'y sont pas, et qui pose des questions aux Européens sur une série de choses qu'ils ressentent dans leur vie et dans la perception de l'état de leur pays. Et donc je vais vous proposer deux grands tableaux de chiffres pour commencer. Alors j'espère qu'ils sont un peu lisibles pour vous, mais c'est pas si certain que ça. Alors je vais vous dire en gros la substance de ces données. La colonne de gauche, la colonne de gauche où il commence à y avoir des chiffres, la colonne de droite où il commence à y avoir des chiffres, en fait, on demande aux gens de donner une note sur 10 pour savoir dans quelle mesure ils sont satisfaits de leur vie en général ou dans quelle mesure ils ont l'impression d'être heureux. Et vous voyez assez rapidement, en fait, si vous arrivez à deviner le premier chiffre, qui est le plus important, après c'est une note sur 10 entre 0 et 10, donc le décimal ou moins d'importance, mais vous voyez qu'en moyenne, quand même, les gens dans les différents pays européens ont l'impression d'être heureux. Ils sont satisfaits de leur vie et ils sont en moyenne autour de 7 sur 10 comme note à dire qu'ils sont plutôt heureux. En revanche, sur des indicateurs moins individuels, mais plus de perception de la situation nationale, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, qui sont les colonnes intermédiaires, dans quelle mesure les personnes sont satisfaites avec la situation économique de leur pays, deuxième colonne, dans quelle mesure ils sont satisfaits de leur gouvernement, troisième colonne, dans quelle mesure ils sont satisfaits du fonctionnement de la démocratie, quatrième colonne, et les deux dernières colonnes consistant dans la mesure de la satisfaction par rapport au système éducatif national et par rapport au système de santé national, vous voyez qu'il y a des niveaux beaucoup plus variables et en tout cas en moyenne beaucoup plus bas. Vous avez encore le fonctionnement de la démocratie qui obtient tout juste la moyenne, comme le système éducatif. Le système de santé, on est à 5, ça commence à sentir le roussi. Alors quand on parle de la situation économique, même si c'était il y a déjà plusieurs mois, et donc ça ne prend pas en compte la crise actuelle, on est à 4 sur 10. Et quand on prend le gouvernement national, quel que soit le pays, quelle que soit la période, on est à moins de 4 sur 10. Donc vous voyez assez rapidement là qu'il y a des différences de niveau qui sont tout à fait importantes. Un sentiment de bonheur. Si on prend des questions un tout petit peu plus individuelles, vraiment sur le ressenti dans la vie quotidienne des gens, on a aussi une série d'indicateurs qui sont plus ou moins optimistes, hein, tout dépend de la question. Là, je vous ai mis quelques exemples. Est-ce qu'on se sent parfois raté? On a posé cette question de manière assez directe, et c'est la première colonne, je la montrerai après. Est-ce qu'on s'est ennuyé pendant la semaine écoulée après l'entretien pour ce sondage? Est-ce qu'on s'est senti seul? Est-ce qu'on a mal dormi? Est-ce qu'on a eu un sommeil sans repos? Et dernière colonne, quand même, pour être un tout petit peu plus optimiste, est-ce qu'on s'est senti calme et apaisé au moins une fois, ou plus, ou un peu plus, dans la semaine? Et ce que vous voyez, hein, c'est qu'il y a là aussi des chiffres tout à fait différents, mais qui montrent quand même un état plutôt positif des populations européennes. Est-ce qu'on s'est souvent ennuyé? Les gens qui disent souvent, c'est moins de 10% de la population en moyenne, voyez, c'est 2,4% de la population qui s'est souvent ennuyée dans la semaine passée au Danemark, 3% en Finlande, 8,5% au Royaume-Uni, mais bon, ça reste toujours inférieur à 10%, sauf en Pologne et au Portugal. Pour avoir le sentiment de s'être senti seul, c'est à peu près la même chose, quoique un tout petit peu plus élevé, surtout en Hongrie. Et est-ce qu'on a mal dormi? Là, on voit qu'on commence à toucher un petit peu des choses plus problématiques pour les gens. On a une moyenne qui est près de 20% des gens qui ont souvent mal dormi, qui ont souvent un sommeil sans repos pendant la semaine écoulée. Je vous ai mis la première colonne à titre d'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire aussi dans le sondage, c'est poser une question qu'on ne savait pas interpréter. Et là, typiquement, est-ce que quand on demande aux gens s'ils ont le sentiment d'avoir été un raté pendant la semaine écoulée, vous voyez qu'il y a des chiffres qui ne veulent absolument rien dire. Ils sont, par exemple, seulement 11% en Allemagne, 12% en Autriche, etc., mais 74% en Irlande, 73% en Suède, etc., etc. Tout simplement, ces chiffres-là, il ne faut pas leur faire confiance, ça veut dire qu'on a posé une mauvaise question qui n'était pas interprétée de manière correcte, est à peu près identique dans l'ensemble des pays européens. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Mais pour finir, donc sur la note, je disais optimiste, hein, est-ce qu'on s'est senti souvent calme et apaisé en Europe? Ben oui, finalement, il y a pratiquement les deux tiers de la population moyenne européenne qui s'est senti relativement souvent calme et apaisé dans la semaine avant leur entretien pour l'ESS. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous montre tout ça? Non seulement pour vous donner ces chiffres qui peuvent être intéressants en eux-mêmes, mais pour dégager assez vite, en fait, deux dimensions du bonheur ou deux dimensions du moral, si on est un tout petit peu moins exigeant sur la définition, des Européens. Quand on fait des analyses statistiques pour comprendre les dimensions latentes hein, derrière ces séries de chiffres que je vous donne, on voit très clairement qu'il y a deux dimensions, de manière très peu surprenante. Une dimension avant tout sur le collectif, sur le niveau du jugement de la nation, donc dans quelle mesure on est satisfait de l'état du système de santé, du gouvernement, du fonctionnement de la démocratie. Vous voyez que l'ensemble de ces questions sont relativement bien corrélées. Et puis, une deuxième dimension, qui est sur la dimension plutôt individuelle, est-ce qu'on a vraiment le sentiment d'être heureux et est-ce qu'on est satisfait de sa vie en général? Donc vous voyez bien, il y a deux dimensions, et ce qui est important, hein, c'est que d'une certaine manière, la variance entre les individus, la variété des opinions par rapport au bonheur, elle concerne plus l'appréciation du niveau collectif que du niveau individuel, dans la mesure où, c'est logique, hein, par rapport à ce que je disais précédemment, il y a un relatif consensus au sein des populations européennes, pour dire que, soit personnellement, si on ne prend pas en compte le reste du monde, on est quand même assez heureux dans notre vie. Quelques éléments de type sociographique pour comprendre un petit peu cette perception du bonheur au niveau individuel. Donc on a pris là les deux grandes dimensions, hein, dans quelle mesure on est satisfait par rapport au collectif, on a pris une question spécifique, celle de la satisfaction par rapport au gouvernement national, et dans quelle mesure on a un sentiment plus individuel, véritablement d'être heureux en soi. Et je vous ai mis les notes moyennes hein, des différentes catégories sociales que l'on peut prendre en compte. On pourrait commenter de manière approfondie, mais j'imagine que le temps tourne rapidement. Non, tout va bien. Assez rapidement tout ça. Vous voyez quelque chose d'intéressant pour commencer. Sentiment d'être heureux, est-ce que ça varie en fonction du genre? Non. Mais par contre, l'appréciation du gouvernement national, la dimension, on pourrait dire, un petit peu plus politique du bonheur, elle est déjà un petit peu plus sensible, sa variance un petit peu plus sensible suivant le sexe. Si on prend l'âge, en fait, là, la question est aussi importante. L'âge, vous voyez, pratiquement une échelle parfaite. Les 18-24 ans, ils nous donnent une moyenne, en moyenne 7,35 au sentiment d'être heureux. 7,25 pour 25-34 ans, 7,07 pour les 35-46 ans, 6,98 puis 6,91 quand on a atteint plus de 65 ans. Donc, la première recette du bonheur, pour anticiper un peu sur un drôle, c'est plutôt de préférer. Bien pourtant, là, ça serait une autre question, en fait. Mais, sur le nombre d'aînés, sur la dimension politique, par contre, hein, il y a un effet assez différent, où c'est en fait les plus jeunes et les plus âgés qui sont les plus satisfaits, alors que les tranches intermédiaires sont moins satisfaites de l'état du fonctionnement du gouvernement national, généralement. On a aussi une sociographie en termes de CSP, hein, c'est différencié, tant en termes de bonheur individuel que d'appréciation du gouvernement national, quel que soit le pays européen, encore une fois, hein, on voit quand même que les professions supérieures sont nettement plus heureuses, par exemple, que les ouvriers. Il y a quand même pratiquement, en fait, pas tout à fait, hein, il y a plus d'un demi-point de différence sur cette moyenne de bonheur individuel entre ces deux catégories sociales. D'où, hein, vous allez voir que, sans surprise, on en revient à la deuxième conclusion, il fallait être jeune pour être heureux, il faut aussi être riche. Par contre, vous voyez aussi que le fait d'être riche, ça n'a pas seulement une importance pour le bonheur individuel, mais ça a une importance aussi pour être satisfait du gouvernement. Plus on est riche, plus on est content avec le gouvernement, quel qu'il soit de gauche, de droite, etc., peu importe, on peut contrôler pour tout. Plus on est riche, plus on est satisfait de la vie politique en général. De la même façon, si on aborde ces questions politiques, hein, un petit peu, vous allez voir, sur la dimension individuelle du bonheur, il y a aussi des différences quand même sensibles. Et là, paradoxalement, par rapport aux théories sociologiques et traditionnelles, finalement, plus on a des positions polarisées, en tout cas vers la gauche, moins on est heureux. Et ça, c'est relativement surprenant et on n'a pas d'explication que le fait d'être extrême gauche rende moins heureux. À moins que ce soit l'inverse, c'est pour ça la question. Par contre, évidemment, là, le fait qu'on soit moins satisfait avec le gouvernement national quand on est d'extrême gauche, là, on a l'explication un petit peu plus évidente. Hein, vous ne la livrerez pas, vous la devinerez vous-même. Donc, on pourrait continuer comme ça assez longtemps pour détailler. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus de vous montrer là, c'était deux choses, comme je vous l'ai dit, hein, en termes de perspective macroscopique. Donc, je vous ai fait, pour commencer, un beau graphique. On reprend exactement la même chose, mais au niveau des nations et pas au niveau des individus. Est-ce que l'argent rend heureux? La réponse est oui. Quand on fait des analyses, en tout cas, c'est simple, oui. Après, Andrew expliquera que c'est beaucoup plus compliqué, en fait, que c'est faux. En fait, vous voyez, enfin, ce que vous voyez sur ce graphique est quand même assez parlant, tant qu'il est simple. Méfiez-vous quand même l'échelle, hein, vous voyez à gauche, elle est réduite entre 5 et 9, donc en fait, la variance n'est pas si importante que ça. Il faut donc en tirer deux conditions. C'est que d'une part, il y a un modèle général européen, on pourrait dire, qui lie PIB, donc richesse nationale, et niveau de bonheur, qui est pratiquement parfait, hein, avec deux exceptions, les Italiens et les Luxembourgeois. Si on exagère un peu, on dit que les Luxembourgeois sont beaucoup trop riches pour être plus heureux que les autres. Et que les Italiens, ils ont vraiment toutes les raisons d'être heureux. Ils ont un des plus beaux pays du monde, et pourtant, ils n'ont pas de chance, ils sont beaucoup moins heureux qu'ils ne devraient être. Ça, c'est la frustration relative. Mais en fait, plus sérieusement, la grande conclusion, c'est que l'effet de la richesse est certes existant sur ce graphique, mais qu'il est assez réduit. Vous voyez que les notes moyennes sont différenciées, mais si on mettait l'échelle des ordonnées entre 0 et 10, comme ça serait le cas normalement, la relation est loin d'être parfaitement de 1 pour 1. Donc la richesse augmente un petit peu le bonheur, mais elle ne l'augmente qu'un petit peu. Et en fait, hein, on peut le vérifier de manière un peu plus générale. Là, je suis désolé, reviens au tableau, mais celui-ci doit être plus visible, il y a nettement moins de chiffres dedans. Toujours, on prend les mêmes deux variables, est-ce qu'on est satisfait de son gouvernement, est-ce qu'on est satisfait d'être heureux, et on observe des corrélations par rapport à quelques grandes variables, hein, sur les différentes situations nationales. Dans quelle mesure est-ce que le sentiment d'être heureux, de manière générale, est lié à l'inégalité dans la répartition des revenus? Les inégalités sociales rendent malheureux. Plus le pays est inégalitaire, plus on est personnellement malheureux et moins on est satisfait du gouvernement, même si on est plutôt plus personnellement malheureux que satisfait de son gouvernement. Toutefois, cette relation est très faible. En fait, elle est statistiquement assez peu significative et donc il faut s'en méfier. Ce qui est véritablement significatif en termes de corrélation au niveau des quelques pays qu'on a, parce que le problème, c'est qu'on a réfléchi au niveau de l'Europe, c'est qu'on n'a pas de si nombreux pays que ça, c'est que pour être heureux individuellement et pour être satisfait de son gouvernement, qu'est-ce qu'il faut? Deux lignes suivantes. Que le niveau de vie, là je peux vous expliquer comment on consulte la variable, mais c'est un niveau de vie relatif et soit plus élevé, et surtout que le taux d'emploi soit plus important. Donc là on a bien non seulement un effet de richesse, mais aussi un effet de présence au travail. Ensuite, on peut dire que le sentiment d'être heureux personnellement est également lié, ce qu'on pourrait dire, à la qualité de l'éducation. Alors pas la qualité de l'éducation dans tous les domaines, je ne sais pas pour quelle raison, mais surtout en mathématiques et en résolution de problèmes. Alors, et dans une moindre mesure, enfin pas dans une moindre mesure, et aussi surtout en fait en qualité de l'éducation de lecture. Mais par contre, l'éducation en termes de sciences, quelles que soient les sciences de la nature, n'ont strictement aucun impact sur le bonheur individuel. Allez savoir pourquoi, ça ne vous le dirai pas. Et de manière peu surprenante aussi, là encore, c'est que la satisfaction par rapport au gouvernement est relativement liée au niveau de participation électorale. Tout simplement, là, on n'a pas un effet de causalité probable, donc c'est pas moi qui cache, c'est tout la causalité est probablement inversée, et c'est plutôt la satisfaction, hein, qui est un signe de la participation électorale, et donc la participation électorale un signe du bon fonctionnement démocratique. Donc il me semble que pour les chiffres que je voulais vous donner, c'est bien fini. Est-ce que ça ne peut pas finir ? Donc, en deux mots de conclusion, hein, excusez, je sais que le problème, c'est que j'avais mon ordinateur, vous voyez, qui est toujours à terre, et donc ma présentation, j'ai dû la changer un petit peu, je n'avais pas tout dans la tête. Donc, la conclusion, c'est que maintenant, Andrew, nous, je vous ai donné quelques éléments pour savoir ce qui rendait les gens heureux. Maintenant, Andrew va nous expliquer comment on va pouvoir les rendre plus heureux.
Merci, Nicolas. Pardon, je vais vous proposer une petite méthodologie, mais évidemment, je compte sur notre discipline extrême. On va avoir 5 minutes pour réagir dans la salle, tout de suite, si vous avez une, deux ou trois questions. Et Nicolas et Andrew pourront tout de suite y répondre sur ce que nous venons de voir, sur certains des indicateurs, sur la méthodologie, sur ce concept de niveau de vie, etc. Qu'on puisse l'approfondir. Certains seront frustrés, mais on y reviendra après. Ensuite, Andrew va nous dire comment tout cela peut être mis en œuvre, comment on va vers cette recherche de bonheur, comment, en tout cas, l'appréhension à l'École d'économie de Paris est en train de se faire, sur quoi il travaille. Et puis, on terminera, on conclura, bien évidemment, par vos questions, un débat interactif entre nous. Mais s'il y a tout de suite une question pour Nicolas sur ce qui vient d'être dit, sur les tableaux que vous avez vus, il y a eu beaucoup de chiffres, il y a eu beaucoup de notions, beaucoup de corrélations. Si certains ont une question, deux questions, tout de suite, allez-y. Parlez fort parce que j'ai pas de micro.
C'est bon. Récemment, dans les médias, on vient d'annoncer que pour être heureux, il fallait avoir plus de 65 ans. J'ai pas du tout étudié de quoi il s'agit, mais c'est un petit peu en contradiction avec, ce sont plutôt les jeunes qui se déclarent heureux que les plus âgés.
Les jeunes et les vieux, on l'a vu, non ?
Oui, c'est alors. Non, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux choses que les médias sont tout faux généralement. C'est sur l'âge. Donc généralement, par rapport au bonheur individuel, on a vu l'âge, c'est plutôt négatif. Hein. Plus on est vieux, plus on est malheureux, en moyenne. Et la deuxième chose sur laquelle les médias ont tout faux, c'est aussi que généralement, quand même, on a tout un discours sur la France, finalement, c'est un peu un pays qui produit du malheur. C'est un pays qui est en tout cas spécifique dans son rapport au bonheur. Ce que je vous ai montré là, sans vous le dire, mais que vous avez peut-être deviné, c'est que la France, finalement, est strictement représentative de la moyenne européenne. Il n'y a pas de spécificité française, ni dans un sens, ni dans l'autre.
À l'exception de la consommation des antidépresseurs, nous sommes le corban du monde. Mais enfin,
justement,
c'est peut-être parce qu'on consomme plus d'antidépresseurs que la Terre entière, on a une vague notion du bonheur, mais ils vont nous dire ça aussi vite. Il y avait une autre question tout de suite là-bas. Oui, allez-y, je suis désolé, je ne peux pas aller vers vous, mais on arrive.
J'aurais aimé savoir si l'étude a été réalisée uniquement sur les pays européens, parce que je pense que la notion du bonheur n'est pas la même dans les pays riches et dans les pays pauvres.
Oui, le sondage dont je parle est uniquement réalisé dans les pays européens, même si c'est une Europe qui est assez large, hein, ça comprend pratiquement 30 pays en Europe, je vous ai montré un peu la plupart des pays importants. Néanmoins, il y a des enquêtes équivalentes sur les autres pays, mais on n'a pas, à ma connaissance, pas de données systématiques sur l'ensemble des pays. Si, enfin, Andrew est spécialiste.
Existe le World Count couvre 200 pays dans le monde maintenant. Donc on peut regarder les données qui proviennent de carrément partout pour faire les comparaisons. Malheureusement, il faut les acheter, c'est 250 000 dollars.
C'est ça le bonheur. Le premier pas du bonheur pour un chercheur, c'est d'avoir 250 000 dollars. Madame, ça sera la dernière et ensuite Andrew va nous dire comment on se met sur la piste du bonheur. Vous appeliez juste votre ami, je croyais que vous vouliez la parole, madame. Oh, mais c'est là-bas, monsieur, pardon. Mademoiselle, là-bas. Juste là.
Oui, alors moi je voulais revenir finalement sur la difficulté aussi de prendre au sérieux aussi certaines notes, parce que tout dépend de l'interprétation de la question, finalement. Se sentir heureux, est-ce que c'est... je perçois véritablement ma situation telle qu'elle est. Ou alors, je suis en train de me donner une note par rapport à ce que j'attendrais, hein, sachant qu'en plus on est dans une société, justement, par les discours publicitaires, valorise voilà, des aspirations à toujours plus, le discours aussi sur la mobilité sociale qui serait très très facile, voilà. Le destin que j'ai, j'aurais pu en avoir un bien meilleur, donc finalement je me donne une mauvaise note. Donc, vous me direz, a priori, tous les pays vont être frappés par le même biais. Enfin, en tout cas, voilà, dire cette note-là, difficile. Alors, ça dépend finalement de ce que... Voilà, ma situation-là et comment j'imagine, j'aurais aimé que ma situation soit. Et puis la deuxième chose, c'est savoir s'il existe aussi des comparaisons sur la même durée, c'est-à-dire est-ce que je perçois ma propre situation par rapport à celle que j'ai connue, c'est-à-dire est-ce que j'ai une baisse du bonheur, alors suite à quoi, est-ce que justement il y a une dégradation des systèmes de santé, de soins, par exemple avec les déremboursements, des choses comme ça. Alors pareil, après ce qu'est la démocratie aussi, le système démocratique il change aussi, c'est pas d'année en année le même. Hein, donc c'est, vous voyez, des choses comme ça, se dire très bien, il faut se lancer au bout d'un moment.
Je vous interromps deux secondes, vous avez une corrélation apparemment évidente sur le système de soins que vous évoquez, c'est que les personnes âgées qui sont les plus grosses consommatrices de soins, puisque les 5 derniers pourcents de la population âgée consomment l'essentiel des soins dans un pays comme le nôtre par exemple, font que, évidemment, si vous avez des difficultés à avoir un accès au système de soins, compte tenu de votre situation ou de l'état de votre retraite, vous considérez que vous êtes dans une situation peut-être de faiblesse par rapport à un environnement et peut-être que ça atténue votre sentiment de bien-être. Mais sur cette remarque, on reviendra tout à l'heure, mais on va voir avec Andrew si on a quelques méthodes particulières pour accéder, en tout cas effleurer ce merveilleux concept de bonheur. Et puis après, Andrew, on reviendra bien évidemment pour engager le